dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez, si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Est-ce que vous connaissez Maison Matisse ? C'est une maison de design d'objets inspirée par l'univers d'Henri Matisse, peintre majeur du XXe siècle. Une façon de continuer à faire vivre son œuvre, mais aussi de la réinventer tout en soutenant la création d'aujourd'hui, puisque chacun des objets et des collections ont été imaginés par des designers renommés ou émergents. Pour parler de cette belle initiative, je suis avec Eliana Di Modica, directrice générale de Maison Matisse. Bonjour Eliana.
Bonjour Hortense.
Alors on va commencer vraiment tout simplement par les débuts. Comment est née Maison Matisse ?
Alors, Maison Matisse est née officiellement en octobre 2019 avec le lancement de la marque de la première collection, qui était une collection édition limitée, qui célébrait par la même occasion le 150e anniversaire de la naissance d'Henri Matisse. Et, mais en réalité, le projet Maison Matisse était né dans la tête de la famille Matisse il y a beaucoup plus de temps, il y a une dizaine d'années à peu près. Et il a fallu aussi quelques années, depuis 2017, travailler aussi sur qu'est-ce qu'on mettait dans cette maison, quels étaient nos objectifs, voilà, tout le contenu de la marque aussi et de la maison.
Oui, donc vous êtes entrée dans l'aventure il y a plus de 2 ans.
Tout à fait. Moi, je suis rentrée dans l'aventure en 2017 et donc ce temps-là de construction de la maison.
Oui. Alors, vous parliez de la... C'est vraiment la famille Matisse qui est à l'origine de ce projet ?
Oui, tout à fait. En fait, il y a, donc, comme je vous disais, il y a une dizaine d'années, la famille Matisse s'est posée la question de l'appropriation de cet univers artistique des Matisse parce que, autant ils étaient très protecteurs de cet univers, c'est-à-dire, par exemple, ils ont toujours concédé très peu de droits pour des produits dérivés, lors des expositions notamment, mais ils remarquaient qu'il y avait beaucoup de produits qui étaient introduits sur le marché, qui s'inspiraient bien évidemment de l'univers de Matisse, qui est très inspirant par ailleurs, mais pas toujours avec une qualité et une exigence à la fois dans la traduction de cet univers et à la fois dans la qualité aussi des produits. Et du coup, voilà, un jour, ils se sont dit, mais pourquoi on ne reprendrait pas à notre compte l'expression de cet héritage artistique pour y mettre tout le respect et l'exigence qu'on considère être dû à Henri Matisse. Donc la réflexion est partie de là, de cette réflexion au sein de la famille. Et quelques années plus tard, Jean-Mathieu Matisse, qui est le président de Maison Matisse, a décidé de porter directement les projets. Au nom de la famille, donc la famille Matisse est toujours derrière les projets, notamment à travers la validation de nos collections et d'autres éléments qui font partie de la communication et de l'image de Maison Matisse, mais c'est Jean-Mathieu Matisse qui a vraiment initié et porté ce projet.
Et vous, comment vous les avez rencontrés alors ?
Alors moi, je les ai rencontrés un peu par hasard, je dirais. J'ai, titre personnel, était toujours passionnée par à la fois le design et l'art. Et voilà, et le hasard des rencontres a fait que, au moment où Jean-Mathieu Matisse cherchait quelqu'un pour l'aider à réaliser ce projet, voilà, on a été mis en contact. On a pas mal échangé sur les projets, sur ce qui pouvait devenir ce projet. Et voilà, il se trouve que ma vision allait dans les mêmes sens que la sienne. Et donc, de là est parti et notre collaboration et le début aussi de la réflexion sur le projet.
Alors moi, je ne m'y connais pas très bien en art, mais l'identité, les œuvres appartiennent toujours à la famille d'un artiste. Vous voyez ce que je veux dire ?
Les droits intellectuels appartiennent à la famille. Ouais. Effectivement, donc c'est peut-être...
Ouais. Oui, je ne sais pas, en fait, justement, le fait n'importe quelle famille de peintres aurait pu avoir ce projet-là.
Ah oui, tout à fait.
Toutes les œuvres n'appartiennent pas, par exemple, au territoire français, enfin, j'en sais rien.
Non, les droits, en fait, les droits intellectuels appartiennent à la famille pendant un certain nombre d'années qui est variable selon des pays. Et passé ces nombres d'années, le droit intellectuel tombe dans le droit commun.
Oui, voilà.
Et donc, là, à partir de ce moment-là, toute personne qui veut s'approprier de ce droit intellectuel peut le faire puisqu'il est libre de droit, justement. Donc, à l'occurrence, pour Matisse, les droits appartiennent encore à la famille Matisse.
D'accord. Alors, juste avant de parler de ces collections, vous, comment vous décririez, en quelques mots, parce que j'imagine que vous pourriez nous en parler pendant 2 heures, du travail et l'univers du peintre ?
Alors, l'univers du peintre, effectivement, on peut en parler pendant 2 heures, ne serait-ce que par la variété de l'univers du peintre. Parce que Matisse, il a travaillé pendant plusieurs décennies avec une production qui est assez importante et en changeant aussi d'époque et de style, ne serait-ce qu'à l'intérieur de la peinture. On est passé de la période fauve à des choses beaucoup plus synthétiques dans les années 30. Donc, c'est difficile, effectivement, de résumer en quelques mots l'univers de Matisse. Et donc, là, je vous parle de la peinture, mais il y a aussi toute l'œuvre des gravures, des dessins, donc plutôt autour de noir et blanc, de la ligne, du signe, sans parler du troisième volet, qui sont les papiers découpés. Et là, on est encore dans tout autre univers. Nous, on résume peut-être avec un mot qui est par ailleurs aussi le core value de Maison Matisse, qui est l'optimisme. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette atmosphère joyeuse dans les tableaux de Matisse, alors qu'il y a une lecture, bien évidemment, premier degré, je dirais, de l'œuvre de Matisse, hein, mais ça transpire malgré tout, peut-être tout au long de sa vie artistique et de son œuvre.
Alors, on va voir, il y a 2 grandes familles de collections, vous nous en parliez tout à l'heure. On va commencer par la première qui s'intitule 1869, je crois.
Oui.
C'est une collection de vases en édition limitée. Vous avez donné carte blanche en même temps à 3 designers ?
Oui, tout à fait. En fait, cette première collection, donc, elle était la première collection de la maison. On a souhaité, par la même occasion, célébrer un moment important de la vie de Henri Matisse, qui était son 50e anniversaire, et on a décidé donc de faire une collection à édition limitée. Il y a dans Maison Matisse 2 types de collections, les éditions limitées et les collections permanentes qui sont disponibles tous les temps par définition. Les éditions limitées donc, célèbrent des moments importants de la vie de Matisse, n'ont pas une récurrence fixe, c'est-à-dire qu'on peut avoir des collections éditions limitées tous les 2-3 ans selon effectivement de cet événement important qu'on souhaite célébrer. Pour cette première collection, donc 1869, au tout début, on avait pensé à Alessandro Mendini pour célébrer cet anniversaire et comme designer unique pour cette collection. On trouvait qu'un maître du design qui célèbre l'œuvre d'un maître de la peinture de l'art était une jolie histoire, était aussi intéressant d'un point de vue de l'aspiration, de l'interprétation de l'œuvre. Et donc, voilà, on a rencontré Alessandro Mendini, qui était assez interloqué au départ. Il nous avouait après s'interroger, mais c'est quoi ce projet ? Mais la famille Matisse, il ne comprenait pas très bien. Donc, probablement, il nous a rencontrés par curiosité. Et après, il était séduit par les projets et donc il nous a dit oui sur les projets. Et en même temps, on avait cette idée de maison et donc de famille, avec cette idée de pouvoir accueillir dans la maison des amis justement de la famille, donc qu'ils soient des designers ou des artisans. Et on trouvait intéressant aussi d'exprimer cette idée-là lors de cette première collection. Et c'est là qu'on a décidé de regrouper plutôt une famille justement de designers qui venaient chacun d'horizons à la fois culturels, par âge et par aussi univers très différents, pour avoir, à partir d'une même inspiration qui était l'œuvre peinte de Matisse, des interprétations complètement différentes. Et c'était ces regards multiples, très différents, qui nous intéressaient finalement, parce que c'est un peu la démarche de Maison Matisse, de comment la force d'inspiration de l'œuvre de Matisse peut se traduire dans la création contemporaine et être revue par le prisme de la pratique de chaque designer, avec encore une fois sa culture et sa façon de voir les choses.
Et alors, comment ils ont travaillé ?
En fait, nous, on a fait un brief très classiquement, je dirais, dans laquelle voilà, on a essayé de donner pas mal d'indications sous l'œuvre de Matisse. Peinte, les codes de l'œuvre de Matisse, les signes, ce qui nous paraissait important. Et on a donné aussi des indications concernant la matière utilisée, parce qu'on voulait là aussi se rapprocher le plus possible de l'univers de Matisse. Et il se trouve que la céramique était un matériau qui était très cher à Matisse, et on est parti de là. Ensuite, on a laissé vraiment carte blanche aux trois designers pour pouvoir imaginer l'objet qui pensait être le mieux représentatif de cette interprétation de l'œuvre. Bon, il se trouve que les trois ont choisi des vases. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vases, d'amphores dans les intérieurs de Matisse. Et donc voilà, les trois, ils ont dessiné des vases, mais qui sont à l'arrivée très différents. Très conceptuels dans les cas de Ronan et Juan Boulorec, très colorés dans les cas de Mendini et Rémy Ayon, mais très différents à la fois, malgré l'usage de la couleur et de la forme.
Et ça leur a pris combien de temps ?
Tout le process global, ça a pris un an et demi à peu près, entre les premières rencontres, la réflexion, les premiers projets, et puis la fabrication a pris longtemps parce que des techniques très particulières, et donc au total, un an et demi à peu près.
Et ensuite, il y a deux collections permanentes inspirées de deux tableaux précis. Alors, vous allez nous dire quels tableaux, comment vous les avez choisis? Est-ce que c'est vous qui les avez choisis d'ailleurs, ou est-ce que sont les designers avec lesquels vous avez travaillé?
Pour les collections permanentes, effectivement, la différence avec déjà les collections éditions limitées, c'est qu'on part d'un tableau choisi. Et l'inspiration est en référence à ce tableau précis et pas à l'œuvre plus générale de Matisse. Les œuvres sont choisies par nous. Parce que c'est l'histoire des maisons Matisse et le choix est fait vraiment par rapport à nos envies. Qu'est-ce qu'on veut raconter finalement de cette œuvre et dans quel ordre on veut la raconter. Donc c'est choisi en interne au sein de l'équipe Maison Matisse, toujours avec la collaboration de Jean-Mathieu Matisse bien évidemment. Et ensuite, voilà, ça c'est le point de départ pour les designers de la collection permanente pour pouvoir imaginer leur collection. On définit aussi avec eux, les designers, une liste de produits sur lesquels on aimerait travailler. On laisse aussi une carte blanche à certains produits qui les inspirent par rapport à l'univers du tableau. Mais globalement, voilà, c'est ça le cadre qui est donné aux designers.
Alors, il y a la première collection, c'était sur la musique, le tableau La musique de 1939. Donc, vous avez choisi Marta Bakowski. C'est plutôt de l'art de la table, là.
Tout à fait. On est parti là aussi de la céramique. En fait, c'était le même propos que pour la collection édition limitée, pour les mêmes raisons que la céramique était un matériau cher à Matisse. Donc, on voulait commencer l'histoire par ça. Et donc, effectivement, oui, c'est une collection d'art de la table. Alors, pas tout à fait dans le sens classique d'art de la table, parce que c'est des pièces qui sont plutôt exceptionnelles. C'est plutôt la pièce unique qu'on amène dans une table, peut-être même d'assiette, un service tout blanc, vous voyez, et ça apporte, c'est la pièce avec du caractère qui habille et qui donne du caractère à la table. Et donc, oui, on a choisi Marta Bakowski, qui est une jeune designeuse franco-polonaise et qui a eu la lourde tâche d'initier ce projet avec, pour la première fois, cet exercice d'interprétation de l'œuvre d'un grand peintre, Henri Matisse, et avec une responsabilité pour le coup de réaliser ça de la meilleure façon possible.
Donc comment ça s'est passé? Vous lui avez dit voilà le tableau et sors-nous une collection?
Non, pas tout à fait. Il y a eu beaucoup d'échanges avec Marta parce que encore une fois c'était la première collection, donc voilà, c'était la première façon que nous aussi on s'est confronté à ce type d'exercice. Quand on a rencontré Marta, bien évidemment, il n'y avait pas seulement le tableau et les codes de Matisse, les codes du tableau, mais aussi on a essayé de nourrir Marta, mais comme tous les designers d'ailleurs qu'on rencontre, avec beaucoup d'informations sur Matisse. Son histoire de là, hein, d'un point de vue artistique, son œuvre, ses signes, etc., etc., ses codes. Et ensuite, on a travaillé vraiment ensemble pour mettre en place en fait une méthode presque qui lui permettre à Marta d'être dans l'interprétation et pas dans la copie. Et donc, ça a été un process qui était relativement long. Marta, en fait, a adopté comme méthode la décomposition du tableau c'était une excellente méthode par ailleurs, réinterprétation de ces signes, parce qu'aucun élément qui est repris dans la collection La Musique est copié tel quel du tableau, c'est les propos de la marque, et puis réagencement de ces éléments d'une façon complètement nouvelle par rapport à l'agencement du tableau fait par Hermès Matisse. Et du coup, ça donne un résultat qui est complètement différent, bien évidemment, du tableau, mais tout en étant... Enfin, les pièces, elles restent malgré tout dans l'esprit du tableau. Ils rappellent forcément les tableaux sans être dans la copie. Donc, c'était ça le travail qui a mené Martha pendant de longs mois.
Alors, le deuxième tableau, c'est Intérieur aux aubergines, qui est un tableau de 1911. Et là, vous avez choisi Christina Celestino. Donc là, c'est une collection qui est beaucoup plus complète. Il y a des meubles
Tout
et
à
des
fait.
Objets.
Tout à fait. La deuxième collection, oui, on voulait aller au-delà et plus loin dans les designs. C'est le propos depuis le début de la marque. Et donc, oui, on a souhaité une collection beaucoup plus large dans laquelle il y a aussi des mobiliers et pas seulement des objets de décoration. Le choix de Christine a été assez évident aussi par rapport à l'esprit du tableau, qui est un des plus décoratifs de Matisse. Et Christina Celestino a déjà cet univers-là dans sa pratique du design. Et c'est un designer qui est très décoratif. Et voilà, on trouvait qu'il y avait une vraie correspondance entre l'esprit du tableau et la pratique de Christina. Et donc voilà, on est parti de ça pour ça. Et on trouve qu'elle a fait un travail là aussi extraordinaire de réinterprétation des signes du tableau, même les plus cachés. On s'en aperçoit quand on met à côté le tableau avec les produits, parce qu'on retrouve ces signes réinterprétés. Et ça permet aussi de faire des allers-retours entre les tableaux et les designs, et de comprendre à la fois mieux les pièces qu'elle a dessinées, et à la fois de comprendre mieux, de rentrer un peu plus dans des détails qu'on n'observe pas forcément sous les tableaux, si on le regarde tout simplement comme une œuvre d'art.
Oui, parce qu'elle va très loin dans les détails. En fait, pour réinterpréter ce tableau, ça passe quoi? Par les formes, les couleurs, les matières? Même comment elle a choisi tel type d'objet ou tel type de meuble?
Alors, concernant les produits, nous avons donné des indications, même si Christina pouvait s'en éloigner. Et pour ce qui concerne les couleurs, là, on est toujours très lié aux couleurs du tableau. C'était la même chose pour le tableau La Musique. Et les matières, les matières aussi, si vous voulez. L'œuvre de Matisse n'est pas une œuvre qui est lisse. On essaie d'avoir pas des produits qui soient léchés, mais qui soient toujours, dans lesquels, en fait, l'action de la main de l'artisan, par exemple, ou les signes de cette intervention, est visible. Un peu à la façon de la peinture de Matisse, qui n'est pas une peinture lisse. Voilà, on essaie de retranscrire aussi dans nos produits cet esprit-là. Et pour les formes, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les designers, qu'ils soient Martha d'ailleurs et Christina, dans les dessins de leurs produits, ont toujours essayé de traduire certaines formes qui sont dans les tableaux dans les formes à trois dimensions de la pièce. Je vous fais un exemple, par exemple, sur Martha, en retournant sur la collection La Musique. Les formes généreuses, par exemple, de la cruche qui est dans la collection, font référence directement aux formes rondes des silhouettes qui sont dans les tableaux. Donc voilà, il y a eu ce double travail de traduction, pas seulement des motifs, mais aussi des formes et des signes du tableau, en retraduisant ces signes dans des formes à trois dimensions.
Et quelles sont les étapes de création, en fait? Elle dessine un produit, elle vous montre, vous validez au fur et à mesure de chaque étape, ou elle vous propose un produit terminé?
Moi, je pense que c'est plutôt classique comme processus, c'est-à-dire, oui, il y a une première proposition, et puis on travaille ensemble, on réajuste, on va plus loin, et jusqu'à arriver à un dessin qui nous paraît satisfaisant, en tout cas, sur un papier, et puis on passe à la phase prototypage, mais là aussi, il peut y avoir encore des allers-retours, des questions qu'on se pose, des ajustements par rapport aux résultats attendus.
Je crois que le mode de fabrication est très important pour vous aussi. Ou est-ce que toutes ces deux collections étaient fabriquées? Tout n'a pas été fabriqué au même endroit, j'imagine.
Non, bien sûr que non. On est très attaché à une fabrication artisanale ou de manufacture artisanale, parce que on pense que le travail de la main et le signe que la main laisse sous les produits est important. Ça fait bien évidemment référence au travail de la main de Matisse. Mais aussi, on souhaitait avoir des produits qui puissent être durables, qui puissent se transmettre et pas être inscrits dans la mode, dans les produits qu'on consomme et qu'on jette. Et pour ce qui concerne les fabricants, il y a une multitude en fait, de manufactures qui interviennent et qu'on a choisi sous la base de leur savoir-faire spécifique qui permettait d'exprimer au mieux le projet du designer.
Oui, la céramique, je crois que c'est dans une des plus anciennes manufactures artisanales d'Italie.
Oui, tout à fait, qui est dans la région de Florence et qui était la seule, en tout cas, lors de nos recherches, on a passé beaucoup de temps à rechercher une manufacture qui puisse exécuter comme on souhaitait les plats de Martha. Et c'était une des rares qui arrivait à rendre cet effet mat de la peinture et à faire un décor fait à la main, parce que c'était ça la difficulté. Les décorateurs sont rares avec une telle précision qu'on a l'impression qu'il ne s'est pas peint à la main. C'est presque industriel, mais en réalité, c'est vraiment quelqu'un qui peint chaque élément du plat.
Et dans la collection de Christina Celestino, il y a beaucoup de rotins. Et ça aussi, ça a été artisanal.
Ça aussi, c'est artisanal. Les rotins, aujourd'hui, il est beaucoup produit en Asie. Et là aussi, il y a très peu de manufactures qui résistent en Europe. Je crois qu'il y en a trois. Oui. Une en Angleterre, une autre en Italie, et peut-être une au Portugal, je ne suis pas certaine. En tout cas, c'est très rare pour une question de coût, tout simplement. Parce que le rotin, c'est une matière qui est écologique en elle-même, mais surtout quand on suit une méthode traditionnelle, il est plié à la main avec de la vapeur d'eau. Donc voilà, c'est un procédé qui prend beaucoup de temps. Donc, pour des questions de coût, tout est fait dans des contrées plutôt lointaines, plutôt qu'en Europe. Bon, pour les mêmes raisons, un peu de responsabilité, de durabilité, on souhaitait faire ça en Europe. Et donc, on a fait appel à cette rare manufacture basée en Italie, elle aussi.
Tout à l'heure, vous parliez de l'une des valeurs de Maison Matisse, qui était l'optimisme, un peu la joie de vivre. Alors, comment on transmet ça par justement ces meubles et objets, par ces collections ?
Alors, Maison Matisse essaie de transmettre ça déjà par l'esthétique de ses pièces. Donc, elles sont inspirées de l'œuvre de Matisse. Donc, elles sont forcément très colorées et transmettent donc cette joie de vivre. Mais nous essayons aussi d'avoir, par nos actions, une approche qui soit positive. En tout cas, c'est que nous, on considère être positif. C'est-à-dire encourager la création contemporaine en travaillant, donc en collaborant avec des designers qui soient émergents ou même très jeune ou confirmé. Et puis, on croit aussi à ce travail des artisans et ce travail traditionnel. Et on pense qu'encourager, soutenir ce travail, c'est aussi important. Pas seulement parce que ça sauvegarde des savoir-faire qui parfois remontent à plus d'une centaine d'années, mais aussi parce que ça donne à nos produits une émotion particulière, de la valeur intrinsèque, et fait de ces produits, des produits, encore une fois, qu'on peut garder, conserver, qui sont durables, qu'on peut éventuellement transmettre. Tout ça contribue à notre vision positive du monde, si on peut dire ça, et donc on essaye, par cette action, de communiquer cette vision optimiste.
Et pour que, j'imagine que vous vouliez vous en parler un peu tout ça, des objets qui soient un peu pérennes, qui traversent le temps, est-ce qu'il y a des critères pour qu'un objet dure, vous, dans la façon de penser, pour qu'il soit pas trop tendance et plaise encore dans 15 ans et qui en même temps séduise le public d'aujourd'hui, ou c'est impossible à prévoir?
Alors je pense que ça c'est vraiment une question difficile à laquelle répondre. Je pense que les produits iconiques du design, bon, personne ne pouvait savoir à l'avance qui allait devenir iconique. On essaie néanmoins, dans notre réflexion, dans notre travail, d'essayer de déconnecter le plus possible des phénomènes de mode et des tendances. En restant peut-être attentif à notre objectif un peu plus, avoir une vision un peu plus lointaine et regarder vraiment l'aspiration à partir du tableau de Matisse. Mais au-delà de ça, oui, c'est très difficile, je pense, de pouvoir planifier, de faire un produit intemporel ou pas.
Oui, c'est quand même, vous dites, un juste équilibre entre, d'un côté, être focus sur le travail de Matisse, son univers, et en même temps, rester ouvert à la tendance et à l'air du temps.
Bah, forcément, je pense que tout le monde, malgré soi, influencé par l'air de temps, c'est difficile de se couper. Effectivement, on est tous immergés là-dedans. On écoute beaucoup les designers qui ont invité, avec qui on collabore, parce que je pense qu'en tant que créatif, effectivement, eux, ils sont à l'affût de ce qui se passe dans le monde, des nouvelles tendances, autant que les artistes, d'ailleurs, ils sont, je pense, toujours un pas en avant par rapport aux autres. Donc oui, on essaie de les écouter et d'avoir, malgré tout, ce point de repère qui est l'œuvre de Matisse, pour que nos collections déjà suivent un fil rouge et une certaine cohérence, et qu'on ne tombe pas trop dans un phénomène juste de tendance de décoration.
C'était assez audacieux de faire ça. Il n'y a personne, enfin, moi, encore une fois, je ne m'y connais pas très bien en art, mais je crois que personne ne l'a fait pour aucun artiste. Comment ça a été reçu ?
Effectivement, oui, je vous confirme que c'est une initiative totalement inédite. Il n'y a pas, à notre connaissance, d'autres marques qui sont parties d'un artiste pour s'inspirer de son et traduire son univers. Globalement, on a eu un accueil qui était plutôt enthousiaste dès le départ, de la part déjà des journalistes, par exemple, mais aussi du public. J'ai l'impression, voilà, que tout le monde a bien compris les propos de cette marque et qu'est-ce qu'on voulait faire. Oui, notre message d'interprétation de l'œuvre et du fait qu'on n'est pas dans la copie a été reçu, ainsi que notre démarche d'encouragement de la création contemporaine dans tous les sens du terme, même si on est parti par les designs, et aussi de soutien aux artisans. Voilà, je pense que tout ça a été bien compris. Et souvent, on m'a dit, oui, ça fait du sens, ça se comprend bien.
On parle en plus beaucoup de l'art en déco, c'est une vraie tendance, le dessin, le coup de crayon comme un motif. Quel regard vous avez justement sur cette tendance ?
En discutant avec les designers avec qui nous on collabore, effectivement, on s'aperçoit que cette démarche-là est déjà chez eux depuis toujours probablement, parce que bien évidemment, ils s'inspirent de l'art comme ils s'inspirent de plein d'autres choses. Donc voilà, il y a quelque part rien de nouveau dans la démarche, parce que je pense que tout designer, mais comme tout créatif, hein, les stylistes de mode font la même chose, tout créatif fait la même chose, mais voilà, là on l'a affirmé de façon peut-être plus claire en lançant cette marque, mais il n'y a rien de nouveau finalement sous le soleil.
Ah bah si, quand même. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir ? Là, on sort d'un confinement. Je ne veux pas crier victoire, non, pas du tout. On ne sort pas du tout d'un confinement. Mais on vient de passer une année, traverser une année un peu difficile. Est-ce qu'il y a d'autres collections à venir ?
Oui, bien sûr. On a d'autres collections qui sont déjà en train d'être développées ou presque finalisées. Vous avez raison, le confinement a un peu chamboulé nos plans, avec l'annulation notamment du Salon del Mobile à Milan en avril. Bien évidemment, on avait prévu d'y participer, donc cette collection a été repoussée au prochain rendez-vous. Mais oui, nous, on continue effectivement à travailler, à finaliser nos collections pour continuer à nourrir cette marque, son univers, et proposer encore de nouvelles pièces au public.
Vous dites nous, vous êtes combien ?
On est entre 4 et 5.
Et vous, quel est votre rôle concrètement ?
Moi, c'est un rôle classique de direction générale, donc je suis en fait sur tous les sujets. En m'appuyant beaucoup, c'est les équipes bien sûr en place qui sont spécialisées sur des sujets comme le digital ou les produits. Voilà, et en essayant encore une fois de garder ce cap d'une ligne éditoriale, d'une direction artistique, avec bien évidemment la collaboration, l'aide et l'appui de la famille, pour, encore une fois, arriver à faire de cette marque quelque chose de cohérent et clair, et lisible et fort.
Qu'est-ce qui vous inspire, vous, personnellement ?
Alors, moi, je suis très inspirée par l'art contemporain. Je trouve que, comme je vous disais tout à l'heure, les artistes, souvent, ils ont toujours une longueur d'avance dans leurs réflexions, dans leur analyse du monde, qui est très différente. Donc, je trouve que parfois, ils nous obligent à réfléchir de façon différente, et je trouve ça très intéressant. Après, je trouve que la période qu'on vit, c'est très compliqué d'ailleurs pour ça aussi, parce qu'on a très peu d'occasions finalement de pouvoir s'inspirer et pouvoir nourrir cette partie à la fois créative et d'aspiration en sens large du terme, du fait que tout est fermé, les musées notamment, les expositions, etc. Mais bon, ça passera et on retournera à s'inspirer, j'espère, bientôt à nouveau.
Est-ce qu'il y a des personnalités, des noms, des designers, des courants qui vous plaisent particulièrement ?
Il y a, oui, bien sûr, des courants dans l'histoire du design qu'on voit d'ailleurs beaucoup aujourd'hui, comme les années 50 ou 60 du design scandinave. Mais il y a aussi toutes les rééditions qui sont faites par Cassina, par exemple, ou par Vitra, avec des pièces qui justement sont devenues iconiques aujourd'hui et qui restent toujours intéressantes. Ensuite, je trouve que c'est intéressant de regarder certes au passé avec ces pièces iconiques, mais aussi regarder qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, la nouvelle relève, et parce que c'est ce qui est dessiné aujourd'hui qui seront les produits iconiques de demain. Et je trouve que dans cet mélange, effectivement, de passé et présent, il y a des choses très inspirantes et très intéressantes à suivre.
Alors, question pas facile. Si vous organisiez un dîner confiné avec Henri Matisse, donc vous avez le droit d'être 6, donc il nous manque 4 invités, qui seraient les 4 autres ?
Ah, alors, c'est pas évident.
Non, c'est pas évident.
Déjà, je serais ravie d'être à la table avec Henri Matisse. Peut-être j'inviterais Picasso, d'abord. Parce que Picasso et Matisse entretenaient vraiment une relation qui était...
Ils étaient amis ou ennemis ?
Ils étaient ni amis ni ennemis, je dirais, mais ils avaient une relation artistique entre la compétition, l'émulation. Voilà, c'était une saine compétition. Je pense qu'ils s'inspiraient l'un l'autre.
Ils s'admiraient, mais ça les challengeait. Ouais.
Exactement. Et donc oui, Picasso, je pense qu'il aurait sa place à la table. Alors ensuite, qui on mettrait dans cette table ? Peut-être pour faire plaisir à Matisse, qui était un amateur de jazz, de musique jazz, peut-être un musicien de jazz aurait aussi sa place autour de la table. Et ensuite, bon, pour ne pas être peut-être toute seule en tant que femme, j'inviterais peut-être Gertrude Stein, qui était une collectionneuse de Matisse, surtout la première période de Matisse, et qui était aussi un personnage volcanique. Et donc, il nous manque encore une place.
Une personne, oui.
Une personne. Et pour terminer, peut-être quelqu'un de plus contemporain, Éric Deschassé, qui est un spécialiste de l'œuvre de Matisse et qui est aussi, par ailleurs, le directeur général de l'Institut national d'histoire de l'art.
Comment on se sensibilise à l'art ? Parfois, on a l'impression que c'est réservé un peu à une élite ou à des gens plus connaisseurs ou plus créatifs. Là, s'il y a des auditeurs qui disent « Ah oui, bah, c'est intéressant, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur un peintre comme ça », quels seraient pour vous vos conseils ?
Je ne suis pas une spécialiste de l'art, bien évidemment, mais je dirais qu'aujourd'hui, on a la chance par Internet déjà de pouvoir lire beaucoup, énormément, par des spécialistes, sous des artistes. Bon, à cette période, en plus de confinement, il y a beaucoup de musées qui ont mis beaucoup de matériel en libre service. Donc, on peut vraiment lire, regarder et apprendre des choses. Et puis, oui, moi, je dirais que quand les galeries sont ouvertes ou les expositions ouvertes, il ne faut pas hésiter à visiter, à discuter aussi avec les galeristes, à échanger avec eux sans avoir peur de ne pas être à sa place, de pas être à la hauteur, etc. Il faut vraiment
oser pousser la porte.
Exactement.
Eh bien, super. Ben, merci beaucoup, Eliana.
Merci
pour cet échange. Ah, merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà,
Merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.